dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Vous écoutez la voix de l'Amérique. Donald Trump a de nouveau réussi à gagner la présidentielle américaine, devenant le 47e président des États-Unis. À 78 ans, le républicain a réalisé le 5 novembre l'un des plus grands comebacks de l'histoire politique mondiale en battant sa rivale démocrate Kamala Harris. Dans l'Amérique et vous, de ce vendredi 8 novembre 2024, nous scrutons l'impact de la victoire de Donald Trump et les perspectives de coopération avec l'Afrique. Avec vous, Jean-Roger Billon, en direct de Washington. Commerce, aide, sécurité, comment l'Afrique peut tirer profit du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Pour ce débat, j'ai avec moi ici au studio 9 de la Voix de l'Amérique, Cabral Libi, homme politique camerounais de passage dans la capitale américaine. Bonsoir, Monsieur Libi.
Bonsoir à vous, Monsieur Billon, et bonsoir à tous vos nombreux auditeurs.
Nyaka Lagoke sera des nôtres, maître de conférence à Lincoln University en Pennsylvanie. Il nous rejoindra au téléphone. Bonsoir, Nyaka Lagoke.
Bonsoir, Roger Billon.
Et également via le téléphone depuis Paris en France, Kag Sanoussi, expert en intelligence négociationnelle. Bonsoir, Monsieur Sanoussi.
Bonsoir, Monsieur Billon. Bonsoir à tous les spectateurs et téléspectateurs.
Nous allons rentrer dans le vif du sujet. En commençant par Nyaka Lagoke, vous êtes en Pennsylvanie. Cet état pivot que les démocrates ne devaient absolument pas perdre. Et pourtant, le parti de Kamala y a mordu la poussière. Nyaka Lagoke, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Bon, pour la Pennsylvanie ou bien en général?
En général,
bon.
Mais...
Ah, en général. Bon, bien sûr... merci beaucoup pour cette opportunité. Je pense que le Parti démocrate a commis plusieurs erreurs. La première erreur, c'est que Joe Biden aurait dû se retirer beaucoup plus tôt pour donner beaucoup plus de temps à Kamala Harris de faire la campagne si c'était elle qu'on devait choisir. Parce que faire une campagne en 100 jours ou en 110 jours, c'était pas suffisant malgré tout le buzz, toute la propagande, toute la machine médiatique, politique qui était mise sur pied. La deuxième erreur, c'est que Kamala Harris n'a pas su résoudre une équation. Comment montrer de la loyauté à Joe Biden tout en se dissociant de certaines de ses prises de décision, de certaines de ses décisions. Elle n'a pas su résoudre cette équation. La troisième erreur qui a été du Parti démocrate, c'est que comme ils avaient gagné les élections partielles il y a quelques années en mettant l'accent sur ce qu'on appelle en anglais le reproductive rights ou le droit des femmes au droit de, essentiellement le droit à l'avortement. Et donc ils ont pensé que cette fois-ci cela marcherait. Or, il y avait une question beaucoup plus importante, la question de l'inflation liée à la question économique. Et donc la question de l'inflation qui a été causée par la guerre en Ukraine parce que en faisant les sanctions contre la Russie, le pétrole et le gaz devenant rare, le prix augmente et cela a eu un impact sur l'inflation dans le monde entier. La quatrième erreur, c'est que l'implication de Joe Biden en tant que président, dont la vice-présidente est Kamala Harris, dans la guerre en Ukraine et dans la guerre surtout à Gaza, que Israël mène pour se venger de la prise d'otages des Israéliens, et cela n'a pas bien résonné dans beaucoup de secteurs de la société américaine, parce que en mettant des centaines de milliards de dollars en Ukraine et en Israël, alors que l'Amérique est en train de vivre une certaine inflation. Voici autant d'éléments. Maintenant, le reste, c'est que...
Alors, du point de vue local...
Je vais m'arrêter là. Bon, parce que
du point de vue local, vous êtes en Pennsylvanie. Okay. On espérait quand même, malgré tout, en dépit de tout, que la Pennsylvanie tombe dans l'escarcelle des démocrates. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné localement chez vous là-bas?
Non, donc parce que d'abord le Tim Walz qu'elle a pris, qui a apporté une certaine assurance, n'avait pas de charisme de Shapiro, le gouverneur de la Pennsylvanie. Donc, selon certains analystes, si Shapiro, le gouverneur de la Pennsylvanie, avait été le choix, c'est sûr qu'elle aurait pu avoir la Pennsylvanie. Mais Donald Trump a mis le paquet en termes de campagne de proximité, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Le monsieur a fait près de 900 meetings à travers les États-Unis. Et donc ici, voilà, et puis il y a aussi des communautés qui sont fortement attachées à certaines valeurs. Par exemple,
merci monsieur Nyaka. Nous allons y revenir plus tard. On va s'adresser à Kag Sanoussi qui est en France. Trump a gagné la Maison-Blanche, mais aussi le Sénat et son parti est désormais en pole position pour remporter la Chambre des représentants. Une galère politique pour les démocrates avant les élections de mi-mandat dans 2 ans.
Oui, je pense que c'est la loi de la démocratie. Parce qu'après une élection, il est toujours possible de faire toutes les analyses, même les plus pertinentes. Mais c'est après. Et la stratégie se construit toujours après, malheureusement. Et je pense que ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est un tournant. Les républicains ont reçu un tour de force le plus inattendu possible, même si beaucoup ne l'espéraient pas. Pour de tas de raisons, on en parlera. Mais il est une évidence aujourd'hui qu'il risque d'avoir le pouvoir absolu. Maintenant, avoir le pouvoir absolu est une chose, savoir en utiliser est une autre histoire. Donc je pense que nous arrivons dans une nouvelle étape aujourd'hui, et que les États-Unis et le monde entier vont vivre une nouvelle ère. Et cette ère-là, il est important qu'on puisse regarder avec finesse et surtout avec clairvoyance.
Merci, Kag Sanoussi. Cabral Libi, vous êtes ici en studio avec nous. Beaucoup de chefs d'État africains ont félicité Donald Trump. Peut-on dire que les dirigeants africains désespéraient des démocrates?
Non, ils suivent simplement le sens du vent. Tout simplement, si quel que soit, si ça avait été Kamala Harris, je crois qu'elle aurait reçu les mêmes lettres de félicitations. On ne peut pas dire qu'il y a eu un engouement particulier lié à... Ça s'inscrit dans l'ordre des choses, tout simplement. Maintenant, pourquoi le font-ils? Chacun certainement ses raisons, ce qui est vrai. Ça me permet peut-être de faire une transition avec le débat de fond. Ce qui est vrai, c'est qu'on peut noter une forme d'aridité dans le projet de campagne de Donald Trump en rapport avec l'Afrique. Il n'y a pas grand-chose qui a été dit concernant l'Afrique dans sa campagne. Il a priorisé, et cela n'est une surprise pour personne, les intérêts américains. Et la priorisation des intérêts américains, visiblement, ne passe pas beaucoup par l'Afrique. Je pense qu'il a beaucoup insisté sur l'Asie, notamment avec avec le rival désigné des États-Unis aujourd'hui économiquement, qu'est la Chine. Ça passe par le Moyen-Orient pour des raisons que nous nous imaginons liées aux richesses, aux matières premières et autres. Donc, les Africains essayent-ils? On peut interpréter ça comme ça. En même temps, on ne peut pas penser qu'après une élection américaine, qu'ils soient tous restés muets. Mais peut-on penser que par leurs félicitations, ils essayent d'attirer l'attention sur l'Afrique? Je ne pense pas particulièrement. Moi, en tant qu'homme politique africain, je vois, enfin, on va peut-être y revenir tout à l'heure, mais moi, je vois le bon côté des choses. Le fait même que une politique américaine moins interventionniste se dessine à partir des États-Unis, à partir du pouvoir américain, c'est plutôt une bonne chose. Ça s'inscrit dans ce que certains appellent la démondialisation. Donc, en théorie, ça laisse des coudées franches aux décideurs africains, ça laisse la possibilité, je dis bien en théorie, aux Africains, de se projeter, de définir leur avenir, de se projeter dans l'avenir, en se départissant, mais sans effort cette fois, du carcan interventionniste que pourrait être la politique américaine.
Dans votre raisonnement, il y a eu quelques rétro-pédalages pendant la campagne. Le candidat Trump a changé de position sur certaines de ses anciennes positions. Peut-on espérer une autre vision de la part du chef de la nation la plus puissante du globe?
Vis-à-vis de l'Afrique?
Oui,
certainement. Absolument. Moi, c'est pas que je l'espère. Je vous ai dit tout à l'heure ce que je ressentais moi. C'est comme le corset interventionniste lâchait son étreinte sur l'Afrique. Et c'est pas plus mal. De toute façon, c'est pas la première fois qu'il va être président. Il l'a été avant et on a bien vécu cela. Mais à votre question, en même temps, ça peut paraître paradoxal dans mon discours et je ne vous dirai pas que ça m'enchante particulièrement. Je suis à peu près convaincu qu'il va changer sa politique vis-à-vis de l'Afrique. Parce que la démondialisation qu'il veut impulser sans l'avoir forcément voulu, arrive à un moment où, à cause en partie de sa politique, lorsqu'il a été président, la Chine et la Russie font des avancées géopolitiques considérables. Alors, sauf s'il veut que ça sonne faux, mais s'il veut « make America great again », et si ça s'inscrit dans la tradition américaine, ça veut dire qu'il faut aussi que ça affecte le rayonnement américain à l'étranger. Du coup, ça va peut-être l'amener à poser un regard différent sur les autres parties du monde.
Nous y reviendrons dans la deuxième partie, mais avant d'y arriver, Monsieur Sanusi, les Africains, et surtout la jeunesse africaine, a manifesté son enthousiasme pour Donald Trump sur les réseaux sociaux. Plus trivialement, ma question serait, les jeunes Africains aiment Trump? De quelle manière le futur locataire de la Maison Blanche pourrait renvoyer l'ascenseur?
Ouais, je pense qu'il y a deux analyses par rapport à ça. La position de la jeunesse africaine, de manière générale, et puis éventuellement l'ascenseur. Je pense que Donald Trump, tel qu'on le connaît et tel que nous pensons qu'il est, il n'y a pas d'ascenseur envoyé en tant que tel, puisqu'il obéit à une logique d'intérêt. Et c'est pourquoi le collègue qui vient de parler a tout à fait raison. Il peut changer radicalement de politique parce qu'il ne réfléchit pas, ou en tout cas il ne fonctionne pas tel qu'on le voit comme un idéologue. Il a une idée, puis non. En fonction des intérêts du moment, en fonction de la conjoncture internationale du moment, en fonction des enjeux, et quand il pense que c'est dans son intérêt, il peut radicalement changer de position et avoir de nouveaux partenariats. Alors, pour la jeunesse africaine, il faut comprendre que la réaction vis-à-vis de Trump envoie à une lecture bien particulière, parce que dans le paysage mondial, et Trump apparaît comme l'élément différent, celui qui est disruptif, celui qui n'est pas dans le consensus international. Quelles que soient les critiques que les jeunes peuvent envoyer aussi à la communauté internationale pour de tas de raisons, Trump, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, il apparaît comme hors système, et même et pourtant il est dans le système. Et je pense que par rapport à son arrivée, on a vu qu'il y a un consensus international plus ou moins mou, ou en tout cas qui existe aujourd'hui, même s'il y a quelques distorsions avec les pays du BRICS aujourd'hui, la Russie en tête, la Chine ici ou là. Il n'empêche que quand on prend les Nations Unies, il y a un consensus plus ou moins qui existe, même si on sent des divergences. Et je pense que la jeunesse africaine voit dans cette approche, je dirais, disruptive aussi, rebelle en quelque sorte de Trump, quelqu'un qui vient bousculer le système et qui permet une forme d'oxygénation. Et je pense que c'est une analyse qu'il faut prendre en compte et aussi comprendre comment Trump fonctionne et surtout comment l'Afrique et les Africains se préparent et doivent se préparer pour étirer leur épingle du jeu.
On y reviendra. Nyaka Lagoke, vous vivez aux États-Unis, vous enseignez ici. À quoi va ressembler Trump saison 2?
Bon, les amis ont dit un certain nombre de choses. Il y a un élément que je n'ai pas entendu que je voudrais ajouter. C'est que Trump est imprévisible. Mais un autre élément qu'on ne devrait pas oublier, c'est pour cela qu'il ne faut pas être trop enthousiaste. Il y a une partie de ceux qui le soutiennent qui croient en ce que les gens appellent désormais « white nationalism », qui est un peu une idéologie, je ne dirais pas édulcorée, mais c'est-à-dire un euphémisme de ce que les gens appelaient la suprématie blanche ou bien « white supremacy ». Donc ça, cela fait partie aussi de son parcours, même si il a réussi à toucher plusieurs couches ethniques ou sociaux professionnelles aux États-Unis. Maintenant, dans le cas de l'Afrique, l'une des raisons pour lesquelles un certain nombre de personnes ont de la sympathie pour Donald Trump, lui-même il a dit dans son discours quand il a gagné l'élection, que quand lui était là, il n'y avait pas de guerre, et qu'il va se battre pour qu'il n'y ait pas de guerre. Le monde est fatigué des guerres, et la guerre en Ukraine doit cesser, la guerre à Gaza doit cesser, mais il y a un élément que Donald Trump...
Nyaka Lagoke, nous allons y revenir tout à l'heure, mais pour le moment, nous marquons un break. Vous écoutez VOA Afrique, l'Amérique et vous, dans la seconde partie de l'émission. Nous essaierons d'être plus spécifiques, comment l'Afrique peut tirer profit du retour de Donald Trump à la Maison Blanche.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
La question du jour, comment l'Afrique peut tirer profit du retour de Donald Trump à la Maison Blanche? Pour vous servir sur ce plateau de l'Amérique et vous, Cabral Libi, homme politique camerounais, de passage à la capitale américaine, Nyaka Lagoké, maître de conférence à Lincoln University en Pennsylvanie, et également Kag Sanoussi, expert en intelligence négociationnelle. Il est à Paris, en France. Nyaka Lagoké, puisque je vous ai coupé la parole il y a un moment, il y a en ce moment en Afrique une forte volonté d'émancipation des pays africains, des ex-puissances coloniales. Comment l'Afrique peut gagner sa souveraineté avec Donald Trump?
C'est d'abord au niveau du discours que Donald Trump tient. Il y a un co-panéliste tout à l'heure qui disait que la politique interventionniste américaine pourrait être moindre, et c'est ce qu'on a vu pendant les 4 ans de Donald Trump au pouvoir. Les Africains veulent respirer, on veut avoir le droit de décider de ce qu'on veut faire, et donc le discours de Trump par rapport à la souveraineté des peuples est un discours qui résonne très fort dans le milieu panafricain, dans le milieu de tous les nationalistes du monde. Et on voit cela un peu avec la première ministre de l'Italie qui, à un moment donné, a attaqué la France. Je crois que c'était hier, il y a eu une réunion en France où on a entendu le président Macron, le président français, en train de dire que voilà, il ne veut pas que l'Europe soit un peuple d'herbivores qui vont être dévorés par des carnivores. Je crois qu'il a utilisé une image en disant que l'Europe devait se prendre en charge. Donc si l'Europe parle ainsi et veut se soustraire de la domination américaine, c'est exactement dans ce registre-là que nous sommes. Et il est possible, à l'heure du renouveau du panafricanisme, il est possible, naturellement, de profiter de cette opportunité. Mais un élément qu'il ne faut pas oublier, et ça je voudrais le dire parce que c'est un élément qui est important. Quand Donald Trump était au pouvoir, à un moment donné, les nationalistes suprémacistes africaneurs qui sont en Afrique du Sud, je crois de l'État du Cap, Eastern Cape, ou bien Western Cape, qui veulent faire sécession, et qui veulent que cette partie de l'Afrique du Sud soit un peu comme Israël. Et ils l'ont dit, il y a des vidéos. Et quand Donald Trump était là, à un moment donné, il semblait avoir de la sympathie, il avait l'intention de vouloir les soutenir. Et s'il rentre dans cette logique, cela naturellement va entacher ce qu'il va faire. Donc,
merci.
Il y a une opportunité dont les Africains peuvent profiter, mais en même temps, il ne faudrait pas oublier que Donald Trump est imprévisible et qu'il a dit qu'il pouvait utiliser l'arme nucléaire. On espère qu'il ne ferait pas la guerre contre l'Iran, mais on espère aussi qu'il ne va pas aller soutenir les Blancs en Afrique du Sud qui veulent faire sécession et qui veulent se transformer comme Israël en Afrique du Sud.
Merci professeur Nyaka. Cabral Libi, qu'est-ce que l'Afrique a à proposer à quelqu'un comme Donald Trump, qui est notoirement perçu comme un iconoclaste, voire quelqu'un d'imprévisible?
Alors, moi, j'aime bien le libellé de votre question parce que ça se situe dans le prolongement de la précédente question liée à la souveraineté. Alors, moi, je suis, comme vous m'avez présenté comme tel, un homme politique camerounais, je suis élu, je suis député et je fais partie de ce qu'on peut considérer comme la nouvelle garde politique. Et j'ai publié il y a 2 mois un ouvrage intitulé « Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès ». Et le 3e chapitre de cet ouvrage est intitulé « L'effectivité de notre souveraineté ». Et je dis quelque part que être souverain, c'est être capable de définir ses choix propres et d'être en mesure de les imposer aux autres. C'est ça, la souveraineté. Et il faut bien que, plus d'un demi-siècle après l'indépendance, que nous, les Africains, nous apprenions à assumer notre souveraineté.
Quelles sont les grandes trajectoires qu'il faut emprunter?
Non, mais j'en viens justement. Ça veut dire que l'élection d'un chef d'État aux États-Unis, en France ou ailleurs, en réalité, n'a que peu d'importance pour nous. Parce qu'on peut inverser cela aussi. Lorsqu'il y a un changement de président au Sénégal ou en France, je ne sais pas trop, ça ne provoque au Sénégal ou au Cameroun, ça ne provoque pas un émoi particulier ici. Le tout, c'est ce que nous définissons comme type de rapport avec les autres pays. Et ça tombe bien. Donald Trump, en arrivant sans politique prédéfinie africaine, et quelqu'un disait tout à l'heure, un autre copanéliste, que lui, il est attaché aux intérêts. Il nous sert donc une feuille blanche sur laquelle nous-mêmes, nous devons écrire ce que nous proposons à l'Amérique. Et sur le plan économique, l'Afrique nouvelle telle qu'elle se définit aujourd'hui a des choses à proposer, a des choses à vendre. Elle peut aiguiser l'intérêt des Américains. Voici ce que nous vous donnons. En même temps, l'Amérique reste l'Amérique. Elle peut aussi continuer à apporter
une certaine pression sur les États africains qui tardent à s'inscrire dans les droits de l'homme. Vous savez, un pays comme le Cameroun, j'en viens, a été sorti d'un programme bien connu avec les Américains, qui est l'AGOA, en 2019, pour des raisons évidentes liées à la crise anglophone et au piétinement des droits de l'homme dans notre pays. Et je pense que le Donald Trump, qui arrive là, peut aussi, s'il veut effectivement faire rayonner l'Amérique comme il le dit, peut aussi être une source de pression supplémentaire, ou plutôt beaucoup plus performante ou efficace, sur les États africains, en tout cas les dirigeants africains, qui tardent à s'inscrire dans le sillage des droits de l'homme, tout cela en lien avec les intérêts qui pourraient leur ou lui être présentés à lui, Donald Trump.
À raison du temps qui s'enfuit, vous allez revenir tout à l'heure à la conclusion de ce que vous dites, mais nous allons passer la parole à Kag Sanoussi. Les États du Sahel, confrontés à des défis sécuritaires énormes, peuvent-ils compter sur Donald Trump?
C'est une question d'enjeu et c'est une question donc du positionnement des uns des autres. Le collègue tout à l'heure le disait, c'est comment on se définit. Les États du Sahel peuvent tout à fait, parce qu'ils ont commencé après donc les difficultés ou en tout cas la bouille ou les conflits avec la France, ils ont diversifié leurs relations. Rien ne dit demain qu'ils ne seront pas en relation avec la France ni avec les États-Unis et d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, et ce qui se passe au-delà des États du Sahel, c'est que tous comprennent, ou en tout cas tous doivent comprendre, que l'Afrique est en train de diversifier son système partenarial. Et que même par rapport à l'Amérique aujourd'hui, ce qui est important dans cette diversification, c'est la prise de conscience de la force qu'on a. Parce que quand on prenait l'histoire de David et de Goliath, par exemple, c'est pas parce qu'on est grand, on a toutes les puissances, qu'on domine tout. Donc tout dépend de ce qui est en face, de la stratégie qu'on a, comment on valorise ce qu'on a, comment on se positionne, comment on se vend. Et se vendre ici, par exemple, dans ce que disait mon collègue tout à l'heure, oui, il y a l'import, par exemple, de la démocratie, ceci, cela, mais en même temps aussi, nous sommes dans une époque aujourd'hui où tout n'est pas manichéen, tout n'est pas importé de n'importe comment aussi en Afrique. Il faut s'adapter aussi par rapport à nos valeurs endogènes. Nos
Alors, si l'on considère M. Trump comme un businessman, ce qu'il est, qu'est-ce que le continent a à lui proposer, selon vous?
Mais le continent a beaucoup de choses à proposer. Pas à lui proposer, mais comment le continent voit l'intérêt de venir dans le continent. Parce que c'est ça, en fait. Il faut inverser la charge de la preuve. Trump doit voir son intérêt. S'il veut l'intérêt de l'Amérique, il sait que beaucoup peuvent se jouer en Afrique. Parce qu'il n'est pas plus bête que la moyenne des hommes et des femmes. Donc, il sait les potentialités de l'Afrique. À l'Afrique de le mettre en valeur, l'Afrique de montrer qu'elle est indispensable dans un certain nombre de domaines. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire une course pour aller montrer qui est le plus beau, qui est la plus belle. Il s'agit donc de savoir valoriser ses fondamentaux, de savoir se faire fréquentable.
Il nous reste moins de 2 minutes, Monsieur Kag. Je vais poser quelques petites questions à vos collègues et puis on va sortir de cette émission. Mais merci de m'avoir laissé vous interrompre. Monsieur Cabral Libi, Monsieur Trump dit que l'Amérique parle de l'Amérique d'abord. Comment aller au-delà des politiques comme l'AGOA pour la promotion du Made in Africa aux États-Unis?
Exactement cela. L'Afrique, c'est une. Ça, c'est ce que nous devons dire à Donald Trump. L'Afrique, c'est une terre de production, c'est une terre d'investissement. Production, il faut que nous puissions autant que nous pouvons au niveau de l'Afrique pour que les négociations qui sont en cours pour le prolongement de l'AGOA qui permet l'exportation ou l'exportation de nos produits ici en franchise de douane prospère, parce qu'il y a une négociation qui doit prolonger ça sur 16 ans. Et un pays comme le Cameroun doit effectivement se battre pour rentrer là-dedans. Ça permettra à la traite de production de proposer à l'Amérique ce qu'elle a produit. Mais en même temps, c'est une terre d'investissement. Il faut que Donald Trump comprenne que les grandes entreprises américaines peuvent faire du chiffre, puisque lui parle d'intérêt, peuvent faire du chiffre en Afrique. Et en cela, d'ailleurs, sa rencontre Make America Great Again. Parce qu'il faut bien qu'il intègre que, pendant qu'il se referme sur l'Afrique, sur l'Amérique, il perd du terrain ailleurs, et notamment en Afrique.
Nyaka Lagoké, en 15 secondes, le président élu des États-Unis n'aime pas l'immigration illégale. Comment créer l'Eldorado en Afrique dans une relation assainie avec la puissance américaine en 15 secondes?
Alors, il suffit que Donald Trump doit proposer une alternative au projet chinois, une ceinture et une route. Et dans un tel projet en Afrique, montrerait que l'Amérique pourrait rayonner au-delà du schéma d'exploitation qu'on voit.
Voilà, fin de cette édition de l'Amérique vous, le temps est vite passé. Cette édition post-présidentielle américaine qui a consacré la victoire de Donald Trump. Merci à nos invités, Nyaka Lagoke, Cabral Libi et Kag Sanusi. Lionel Gaïma a assuré la réalisation de cette émission. Jean-Roger Billon depuis Washington DC. Excellent week-end à tous.